Aujourd'hui, nous recevons le monsieur Walid Dabous, qui est directeur de recherche INRIA et responsable scientifique de l'équipe Planète, qui s'occupe des protocoles et applications pour l'Internet à l'INRIA de Sofia Antipolis. Il a écrit de nombreux articles sur la question dans des revues spécialisées. Walid Dabous, nous vous écoutons.
Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je parlerai ce soir des protocoles Internet en général et de l'impact de l'insertion de liens satellites dans l'Internet sur les performances de ces protocoles. Donc, le plan de mon exposé est le suivant. D'abord, un rappel ou un bref aperçu sur l'architecture de l'Internet, c'est-à-dire comment est-ce que ce réseau est constitué, et quelques petits détails sur les protocoles essentiels que je vais évoquer dans ma présentation. Donc, j'essaierai donc de présenter les points essentiels dont j'aurai besoin pour le reste de l'exposé. Et puis après, je parlerai des spécificités des liaisons satellites qui font en sorte que les protocoles définis ci-dessus pour l'Internet ne fonctionnent pas très très bien dans un environnement où on a des liens satellites. Et après cela, donc, je vais présenter comment est-ce que les protocoles ont été modifiés ou adaptés pour effectuer donc, le transfert de données, un transfert de données optimal dans le réseau, donc réseau Internet avec liens satellites. Donc, quand je dis transfert de données, cela veut dire un transfert de données point à point, d'une source vers une destination. Et puis après, je parlerai aussi de la diffusion par satellite, quels sont les protocoles utilisés, quelles sont les difficultés que l'on rencontre pour effectuer ce genre de manip. Et après cela, je citerai quelques problèmes qui sont ouverts, donc problèmes de recherche sur lesquels les gens travaillent actuellement, pas nécessairement sur l'aspect satellite, mais sur l'aspect Internet en général. Donc, d'abord, pour la partie architecture et protocole de l'Internet, je commencerai par le principe de bout en bout, puis je détaillerai les protocoles TCP et IP multipoint comme suit. Donc, d'abord, Internet veut dire réseau de réseau, et le réseau Internet a été constitué par le rassemblement de ce qu'on appelle des sous-réseaux ou bien de réseaux de communication. Ces réseaux ont des technologies différentes. On parle de réseau ATM, de réseau GSM, de réseau Ethernet, donc un réseau local. Il y a des liens satellites géostationnaires qu'on peut utiliser dans l'Internet. On a parlé à un moment des constellations de satellites en orbite basse pour servir de véhicules de support du trafic Internet. ADSL aussi. Les assistants personnels, les PDA, qu'on peut aussi donc, utiliser pour se connecter à l'Internet, etc., etc. Donc, il y a plein de technologies qui ont été rassemblées ensemble pour constituer ce réseau. D'où une grande difficulté pour définir quel devrait être le mécanisme pour raccorder toutes ces technologies différentes. L'idée de base qui a fait le succès de l'Internet, c'est de simplifier au maximum le protocole ou le mécanisme qui permet de connecter tous ces sous-réseaux. D'où le nom du protocole IP, le protocole Internet, qui est un protocole très très simple, que je ne vais pas décrire en détail ici, mais qui fournit un minimum de fonctionnalités. Le protocole Internet ne permet pas à un utilisateur d'établir une connexion avec un transfert fiable de données entre une source et une destination. Le réseau, dans ce cas-là, ne garantit pas la fiabilité de la transmission. Pourquoi ? Parce que pour faire cela, on a besoin de mécanismes plus complexes et surtout, il faudrait alors combiner les mécanismes des différents réseaux, ce qui revient à faire des mécanismes très très difficiles à optimiser. Donc, les architectes de l'Internet ont opté pour une solution de simplicité dans le protocole d'interconnexion. C'est pour cela qu'on dit que l'Internet ne fournit pas un service fiable de transfert de données, ne fournit pas de garantie de qualité de service, ce sont les mots utilisés par les techniciens. Donc quand il y a des embouteillages sur les fibres, sur les liens satellites, c'est que pas mal de gens utilisent le réseau et tout le monde est en compétition pour les mêmes ressources. Et donc IP permet donc d'avoir accès à des ordinateurs qui sont loin, mais ne garantit pas la fiabilité de la donnée, de la transmission, et ne garantit surtout pas qu'on aura une certaine qualité de service, qu'on aura par exemple 64 kilobits par seconde, ce qui revient à une communication téléphonique avec un codage approprié. Donc on ne peut pas garantir ça avec le protocole IP. Donc d'où le besoin d'un autre protocole pour effectuer une transmission de données fiables. Quand je veux me connecter à un serveur de données pour télécharger quelque chose, j'ai besoin quand même de recevoir tout le fichier. Donc l'approche qui a été adoptée par les concepteurs de l'Internet, c'est de dire on garde toute la complexité dans les nœuds terminaux, c'est-à-dire la source et la destination. On décharge au maximum le réseau de cette fonctionnalité. Et donc, le protocole TCP signifie Transmission Control Protocol, c'est-à-dire le contrôle de transmission de bout en bout, entre source et destination. Alors, le mot protocole ici signifie un ensemble de mécanismes qui sont mis en œuvre dans les nœuds terminaux pour garantir un certain service. Et là, c'est pour garantir, par exemple, assurer la fiabilité de la transmission. Fiabilité signifie que toutes les données émises par l'émetteur seront effectivement reçues par le récepteur, et s'il y a un problème quelconque sur le réseau, s'il y a ce qu'on appelle une congestion, un paquet a été perdu quelque part suite à un manque de ressources, mémoire dans un routeur quelconque dans le réseau, la source doit retransmettre ces données pour assurer la fiabilité. Bien sûr, ce protocole est essentiel, il est utilisé dans un grand nombre d'applications, transfert de fichiers, accès à des pages web, ou même pour se connecter à un ordinateur distant, tout type d'application qui nécessite la fiabilité. Ce protocole très célèbre a pourtant été sauvé par l'introduction d'un mécanisme appelé le mécanisme de contrôle de congestion, dont l'objectif est d'éviter la surcharge dans le réseau. Donc, je décris ce mécanisme comme suit. En fait, l'objectif de ce mécanisme, c'est d'éviter qu'il y ait une surcharge dans le réseau, qu'il y ait une grande quantité d'informations qui est injectée par les utilisateurs dans le réseau, vu qu'il n'y a pas dans le réseau un mécanisme qui permet de réguler les informations qui sont introduites. Donc, on demande aux émetteurs et aux récepteurs de faire quelque chose pour éviter de surcharger le réseau. Et ce qui est adopté dans TCP, c'est de fonctionner comme suit. L'émetteur commence à injecter des données dans le réseau, donc de la façon suivante. Il augmente la charge, c'est-à-dire il transmet de plus en plus de données jusqu'à ce que la charge atteigne donc un certain seuil à partir duquel il commence à ralentir la façon avec laquelle il injecte les données dans le réseau. Donc en gros, on commence en allant assez rapidement, en augmentant la quantité d'informations qu'on injecte dans le réseau, notre objectif étant quand même de commencer assez lentement. On commence avec une petite quantité qui est injectée dans le réseau pour éviter que l'on surcharge, et au fur et à mesure que l'on reçoit de l'autre partie une confirmation comme quoi les données ont été reçues, on continue et on devient de plus en plus audacieux pour injecter plus de données en disant ça va marcher, et c'est ce qu'on appelle une fenêtre de transmission. J'augmente ma fenêtre de transmission pour envoyer de plus en plus de données. À partir d'un certain moment, je ralentis quand même, donc j'adopte une courbe pour augmenter mon débit qui est une courbe linéaire qui n'est pas exponentielle, jusqu'à un certain moment où il y a une perte de paquet. Alors qu'est-ce que ça veut dire une perte de paquet ? Un routeur intermédiaire dans le réseau reçoit des données et il n'a pas de place mémoire pour stocker des données. Donc il rejette le paquet parce qu'il n'y a pas de garantie pour la fiabilité qui est assurée par le réseau. Et donc, comme le paquet a été rejeté, la destination ne va pas le recevoir, elle ne va pas renvoyer à la source une confirmation comme quoi elle l'a reçu, et la source, elle va se dire, tiens, je suis en train d'aller trop vite, donc il faut que je ralentisse ma transmission. Et qu'est-ce qui se passe ? On diminue la fenêtre pour avoir une valeur est égale à un paquet, c'est-à-dire je n'ai plus d'autorisation d'inonder le réseau avec un grand nombre de paquets, et je diminue ma fenêtre et je recommence avec une petite quantité d'informations que j'injecte dans le réseau. Et chaque fois que je reçois une confirmation comme quoi ça va bien, ça va mieux, je réaugmente ma fenêtre. Donc c'est ce mécanisme-là qui a permis de sauver, entre guillemets, le protocole TCP, parce que les performances de ce protocole étaient catastrophiques dans les années 80, et les gens se demandaient, est-ce que le protocole TCP allait passer donc, le cap des années 90, les performances sont très très mauvaises, il faut un nouveau protocole haut débit. Ben voilà, c'est un petit mécanisme qui a été introduit qui permet de s'adapter au réseau. Donc la philosophie de l'Internet, c'est gardons le réseau simple, essayons de faire un contrôle de bout en bout. Ce n'est pas toujours simple parce que là, on a pu le faire parce qu'il y a une source et une destination avec une augmentation de la charge injectée par la source dans le réseau et puis une boucle de contre-réaction qui permet d'adapter donc, le débit de la source. Ça marche pour une application de transfert de fichiers, ce n'est pas adéquat pour injecter de la vidéo dans le réseau. Parce que si je suis en train de transmettre un match de foot, je ne voudrais pas qu'on me dise « là, il y a eu un paquet qui est perdu, donc je réduis la fenêtre, et donc là, pendant 3 secondes, on ne va pas recevoir. » Je préfère qu'on laisse tomber le paquet et qu'on continue à transmettre, en évitant donc, de faire ça. Mais donc, c'est un mécanisme qui est très, très important, qui a été introduit dans le protocole TCP. Donc, comme vous voyez, il y a des mécanismes assez complexes qui ont été injectés dans les protocoles pour permettre un fonctionnement sur un réseau hétérogène. Un autre exemple de protocole dont je vais parler, c'est l'introduction de ce qu'on appelle le multicast, le multipoint sur l'Internet. Donc, on parle beaucoup de ça, la diffusion, etc. Donc, le multicast, il a été conçu au début des années 90, fin des années 80, afin de permettre une duplication efficace des paquets dans le réseau. En gros, on voudrait permettre à une source de données d'envoyer ces données à un groupe de récepteurs qui est inconnu a priori par la source. Par exemple, les gens intéressés par les conférences UTLS. On diffuse sur l'Internet ces conférences, on ne connaît pas nécessairement les gens intéressés. Donc il faudrait que le réseau puisse transmettre ces données et puis dupliquer là où il le faut, c'est-à-dire pour envoyer les données vers là où il y a des récepteurs intéressés. Donc bien sûr, ce n'est pas une tâche facile. Ça aussi, donc c'est quelque chose qui nécessite une intervention du réseau lui-même. J'ai dit la phrase, le réseau duplique. Donc, il faudrait qu'il y ait un minimum de fonctionnalités. Il ne faudrait pas rendre cette opération très complexe parce que le principe de base de l'Internet, c'est garder le réseau simple au maximum et mettez l'intelligence dans les nœuds terminaux. C'est pour cela qu'il n'y a pas de support de la fiabilité au niveau du protocole IP multicast. C'est-à-dire qu'on ne garantit pas que les données seront livrées à la destination. Bien sûr, c'est ce genre de protocole qui est utilisé pour supporter les applications multimédia telles que diffusion de vidéoconférences, audioconférences sur l'Internet. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de la façon suivante. J'ai une source de données qui envoie des données vers le réseau. En fait, elle voudrait envoyer vers le groupe de personnes intéressées par cette information, donc qui est a priori inconnue. Voilà les destinations qui sont intéressées et qui sont inconnues pour la source. Et voilà le nœud qui est au milieu, là, qu'on appelle un routeur, qui a ce qu'on appelle une table de routage, c'est-à-dire une table qui consulte quand il reçoit un paquet pour savoir où est-ce qu'il faut envoyer ce paquet. Donc voilà la source qui envoie un paquet de données, c'est-à-dire un ensemble d'octets qui est envoyé vers le réseau. Quand le routeur intermédiaire reçoit ce paquet, on lui dit c'est envoyé au groupe. Or, il ne connaît pas les destinataires de ce paquet. il n'a qu'une seule information, c'est la source du paquet, qui est l'émetteur de ce paquet. Et donc c'est pour cela, dans l'Internet, qu'il y a ce mécanisme un peu intelligent de se baser sur l'adresse de source pour dire, comme je connais la source, je ne connais pas les destinations, il faut que j'inonde, c'est-à-dire il faut que j'envoie ce paquet vers toutes les destinations possibles. Et donc voilà, le paquet il est dupliqué vers toutes les liaisons auxquelles est connecté le routeur pour parvenir aux destinations. Bien sûr, vous allez dire, mais là, ça va inonder le réseau et ça va arriver à des endroits où il y a des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par ces données. Pour cela, il y a d'autres mécanismes plus complexes qui vont aller après élaguer l'arbre de diffusion comme suit. Donc, j'inonde, puis j'élague. Voilà donc un réseau, une source S qui envoie donc des paquets. Les routeurs dupliquent. De nouveau, ça arrive à des routeurs qui dupliquent les paquets. Je vois que dans certains cas, voilà, j'ai des paquets qui sont reçus deux fois. Donc ça, c'est un problème ici. Donc il y a des mécanismes pour régler ces petites difficultés. Mais en fin de compte, donc, les récepteurs, les deux R qui sont à ma droite, donc, ont reçu le paquet. Et ce qui va se passer, là où il n'y a pas de récepteur, on va renvoyer des messages pour dire « ce n'est pas la peine d'envoyer les données ici, j'en ai pas besoin ». Donc, en gros, il y a des mécanismes dans l'Internet qui permettent de diffuser sur le réseau de façon efficace des données. Ces mécanismes ne sont pas très, très appréciés par les opérateurs parce que ça nécessite quand même une certaine complexité dans les routeurs. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, on voit que les fournisseurs d'accès Internet n'ont pas supporté, ils ne fournissent pas un support du multicast dans leur réseau. Ce n'est pas évident. Mais dans les réseaux de type recherche ou académique, on voit donc, ce genre de mécanisme et c'est les mécanismes qui sont utilisés dans ce qu'on appelle le MBON, Multicast Backbone, qui sert de support pour la diffusion de conférences dans le réseau. Donc voilà les deux protocoles dont je voulais parler. Ce sont des protocoles qui sont utilisés dans l'Internet. La question est la suivante. Comment savoir quand est-ce qu'il faut transmettre, quand est-ce qu'il ne faut pas transmettre des données? Parce que c'est vrai que là, si je fais comme TCP à l'aveuglette, j'envoie des données et puis quand il y a un paquet perdu, j'arrête. C'est peut-être pas très très optimal. Mais on a été obligé de faire ça parce qu'on n'a pas d'informations de la part du réseau. Le réseau ne nous envoie pas des données. J'envoie des paquets et puis c'est silence radio. C'est après un certain temps que je découvre que mon paquet est perdu et qu'il faut que je retransmette. Donc le manque d'informations sur l'état du réseau, c'est ce silence radio qui a poussé les gens à renoncer à ce qu'on appelle l'optimisation théorique. Dans le réseau téléphonique, on pouvait optimiser, c'est-à-dire on sait qu'une connexion téléphonique nécessite 64 kilobits par seconde, le débit est prévisible, donc on peut faire des statistiques sur le nombre d'utilisateurs, etc., pour prévoir la charge et optimiser le réseau. Ce n'est pas si simple que ça dans l'Internet, parce que la charge des gens est imprévisible. Il se peut que je vois un fichier qui m'intéresse, qui fait 10 mégaoctets, hop, je clique pour le télécharger. Donc, ou bien que je me balade sur une page qui ne m'intéresse pas et puis je me contente à faire des petits clics qui transmettent quelques dizaines d'octets. Donc la charge des utilisateurs est imprévisible. En plus, il y a une grande hétérogénéité dans le réseau. On a vu ça dans ce schéma. Il y a divers types de liaisons. Il y a des liaisons fibre optique qui peuvent supporter des dizaines de mégabits, voire gigabits. Il y a des liens ATM à 155 mégabits, c'est-à-dire qui peuvent supporter un grand débit d'informations. Il y a des liaisons GSM à 9006. Ethernet est dit ou 100 mégas. Donc, il y a une grande hétérogénéité dans la bande passante supportée par le réseau. Donc par les différentes liaisons dans le réseau. Donc comment faire alors pour connaître, est-ce que je peux télécharger ce fichier à 10 mégabits par seconde, combien de temps ça va prendre de tel endroit ou de tel endroit, comme je ne connais pas les routes par lesquelles je vais passer et les capacités de ces routes, hein, il est difficile d'effectuer le travail d'optimisation, vu qu'il y a une grande hétérogénéité dans le réseau. Un autre problème aussi, concernant les performances, c'est le passage à l'échelle. Ça, c'est un mot-clé aussi dans tout ce qui est protocole de l'Internet, ce qu'on appelle en anglais scalability, en français passage à l'échelle. Comment faire en sorte que le mécanisme que nous avons introduit dans ce protocole résiste aux facteurs d'échelle, c'est-à-dire si on le teste avec 10, 100, 1 million, 10 millions, 100 millions d'utilisateurs. Voilà. Donc, et cet aspect apparaît surtout dans tout ce qui est multipoint, diffusion. Si je définis un protocole dans lequel j'envoie un fichier vers 1 million d'utilisateurs, et pour m'assurer que vraiment le fichier est bien reçu, je demande à chacun des utilisateurs de me renvoyer un accusé de réception, je vais très très vite m'apercevoir que je vais recevoir 1 million de paquets qui me dit « tout va bien, tout va bien, tout va bien ». À chaque envoi, je vais recevoir 1 million d'accusés de réception. Donc on voit que ce mécanisme ne passe pas à l'échelle. Donc il y a des nuances comme ça, il y a des mécanismes auxquels il faut faire attention à ne pas intégrer dans tes protocoles, parce qu'il se peut que le mécanisme soit très très intelligent pour un récepteur, mais quand il y a un grand nombre de récepteurs, ça ne fonctionne pas. Donc tous ces mécanismes, toutes ces difficultés ont poussé les gens à avouer l'incapacité d'optimiser les performances des protocoles de l'Internet et à dire on ne peut pas faire des choses très très intéressantes dans l'absolu, contentons-nous d'une optimisation partielle, c'est-à-dire qui est liée aux spécificités des liaisons. C'est-à-dire, je veux faire fonctionner TCP sur des liens satellites, ben je m'occupe à optimiser les performances de TCP dans ce cadre-là. Regardons alors, pour revenir au sujet des satellites, quelles sont les spécificités des liens satellites. Donc, en fait, à un moment donné, on a commencé à utiliser le numérique pour les satellites. DVB, une norme européenne, a été reconnue mondialement et on commence à l'utiliser pour diffuser de la télé par satellite. Et ça a permis donc de considérer l'envoi de données IP, Internet, par les mêmes moyens. Quels sont les avantages à utiliser le satellite pour du trafic Internet ? Bien sûr, il y a la diffusion naturelle, donc... Si je voudrais envoyer mes données à 1 million d'utilisateurs, il suffit de les envoyer une fois par satellite. Et puis ces gens-là, ils vont tous, s'ils sont équipés d'une antenne de réception, ils vont pouvoir recevoir ces données. Même s'ils sont entre guillemets mobiles, c'est-à-dire même si l'antenne est sur une voiture qui se déplace et qui est repointée comme il faut pour recevoir les données. Ce n'est pas la mobilité GSM. Et même s'ils sont dans des endroits où, et surtout s'ils sont dans des endroits où il n'y a pas une infrastructure terrestre déployée, parce qu'on peut opposer aux satellites l'accès au débit ADSL ou autre terrestre, en disant mais est-ce vraiment important les satellites, vu que l'on peut avoir un accès au débit chez soi avec ADSL. Donc effectivement, là où on ne peut pas avoir facilement l'accès à une infrastructure au débit, il est important de pouvoir bénéficier d'un accès au débit satellite. Effectivement, si je dispose d'une antenne de réception, je peux recevoir jusqu'à 2 mégabits ou même plus, quelques mégabits par seconde, ce qui est vraiment très important, un débit très important, chez moi. Donc, je pourrais surfer sur le web et puis télécharger des clips ou des films à un débit assez intéressant, bien sûr, qui sans pour autant nécessiter une infrastructure très très évoluée au niveau terrestre. Bon, tout ça c'est bien, mais il y a quand même pas mal d'inconvénients qui ont reculer cette échéance d'intégration ou d'acceptation des liens satellites comme des liens candidats à être intégrés dans l'Internet. Comme on a vu au début, l'Internet a un peu phagocyté tous les liens qui existent en les intégrant et en mettant le protocole IP dessus. Mais il y avait une difficulté avec les liens satellites. C'est que c'est vraiment très très long pour remonter et descendre. Donc, pour transmettre un paquet, via une liaison satellite. Il faut envoyer le signal jusqu'au satellite. Si c'est un satellite géostationnaire, il est à 36 000 km, ben on fait un petit calcul, on trouve qu'il faut 250 millisecondes pour remonter et pour descendre. Bon, 250 millisecondes, ça va, mais pour l'aller et le retour, on trouve le fameux effet écho quand on parle au téléphone avec l'Australie, bonjour, puis après, vous m'entendez ? Et donc, quand il y a deux fois 250 millisecondes, 500 millisecondes, c'est vraiment très, très gênant pour une communication interactive. Donc, pour cela, les gens qui sont contre les liens satellites opposent souvent ce problème de délai, et c'est ce qui a poussé les gens à considérer les satellites en orbite basse, donc les constellations de satellites, télédésiques, etc., hein, parce qu'en orbite basse, le satellite est plus proche, donc le délai, il est plus faible. Hein. Bien sûr, il y a d'autres problèmes, hein. Je ne rentre pas dans la topologie, dans les difficultés des constellations de satellites, mais pour l'aspect délai, hein, le délai il est plus faible quand le satellite est en orbite basse. Il y a un autre problème qui est lié à celui-là, concernant les liens satellites, c'est le fait que le produit bande passante délai, il est élevé. Alors, c'est un mot très, très technique. Qu'est-ce que c'est le produit bande passante délai ? La bande passante, dans notre jargon technique, signifie le nombre de bits par seconde ou de mégabits par seconde que l'on peut transmettre sur ce lien satellite. Et puis le délai, c'est le délai de propagation, c'est-à-dire les 250 millisecondes nécessaires pour remonter au satellite et redescendre vers la destination. Or, ce produit identifie la quantité d'informations qui est en transit entre l'émetteur et le récepteur à un moment donné. Donc quand je commence à transmettre, mes données remontent vers le satellite, redescendre, je commence à transmettre d'autres données, hein, et puis d'autres données, et quand mon premier paquet arrive à la destination, il y a déjà une quantité d'informations dans le tuyau entre la source et la destination. Bon, et quel est le problème ? Si cette quantité d'informations est grande et importante, quelques mégabits, ben, ça me pose un petit problème de contrôle. En gros, s'il y a une petite erreur, il faut tout laisser tomber et recommencer une transmission. Donc j'ai perdu une grande quantité d'informations en transit. Comme il faut attendre le retour pour s'assurer que tout va bien ou pas, ça pose quand même un problème qui, si on n'est pas très très prudent, ben, on va perdre des données et on va aboutir à une utilisation non efficace de cette liaison. Bon, on peut aussi parler des erreurs de transmission. Donc, comme on passe par des liens, je dirais, radio, sans fil vers le satellite, le signal électrique, électromagnétique s'atténue, et donc on peut se trouver avec une situation où il y a pas mal d'erreurs de transmission. Bien sûr, il y a des mécanismes pour se protéger contre cela. Et d'autres problèmes concernant, par exemple, l'asymétrie. Donc, que signifie l'asymétrie ici ? Dans certains cas, on a des antennes de réception satellite avec lesquelles on peut aussi émettre. Mais on peut recevoir à 2 mégabits et puis émettre à 64 kilobits par seconde. C'est-à-dire on émet beaucoup moins parce qu'on a une puissance plus faible que la station d'émission centrale d'un opérateur. Hein, donc, on peut émettre un certain débit qui dépend de la puissance de notre antenne. Hein. Donc, comme les antennes de réception des particuliers sont en général petites, hein, elles ont une puissance d'émission faible. Hein, je ne parle pas des antennes qu'on a chez nous pour recevoir la télé, c'est des antennes spéciales qu'on pourra utiliser dans le futur pour envoyer vers le satellite. Et donc, pour ces antennes, on pourra émettre un débit plus faible que l'on peut recevoir. Et ça aussi, ça pose un problème pour les protocoles bidirectionnels, c'est-à-dire qui nécessitent un échange de données. Pourquoi je cite tout ça ? C'est pour vous dire que les protocoles de l'Internet dont j'ai parlé au début ont été conçus sans prendre en compte, a priori, les spécificités des liaisons satellites. et sans prendre en compte d'ailleurs non plus les spécificités d'autres liaisons. Ils sont des protocoles génériques conçus pour fonctionner dans n'importe quel environnement sans pour autant être optimisés pour ces environnements-là. Donc leur fonctionnement dans un environnement satellite pose des problèmes. Donc j'ai déjà parlé de tout ça. Voilà un exemple de réseau dans lequel il y a un satellite, des stations d'émission à gauche, des récepteurs à droite. Là, si je veux télécharger un fichier qui est là, par exemple, cette station, elle va envoyer une requête vers le serveur par le réseau terrestre et l'information, elle va revenir par le satellite vers le récepteur. Maintenant, ceci, bien sûr, nécessite un bon fonctionnement du protocole TCP dans cet environnement. J'avais dit, avoir un bon fonctionnement TCP, un fonctionnement optimisé TCP dans un environnement très très hétérogène, c'est très difficile. Là, je considère un cas très très simple, une liaison satellite, comment faire pour optimiser le fonctionnement TCP. Il y a eu pas mal de travaux de recherche qui ont été faits pour améliorer le fonctionnement TCP dans un tel environnement. Je vais évoquer quelques-uns de ces travaux. Donc d'abord, je vais dire pourquoi TCP ne fonctionne pas très très bien dans cet environnement, là où il y a des liens satellites, et quels sont les mécanismes qui ont été proposés pour améliorer les performances, c'est-à-dire pour aller plus vite. Donc, quels sont mes objectifs de performance? Je voudrais bien sûr pouvoir partager cette liaison satellite. On sait bien que avoir un lien satellite coûte cher. Pour pouvoir émettre vers le satellite, on paye quelques milliers de francs l'heure, donc c'est quand même pas mal, c'est assez cher. Et donc on voudrait pouvoir mutualiser l'utilisation de cette ressource chère. Donc ça c'est un premier point. Je voudrais pouvoir utiliser de façon efficace pour un grand nombre d'utilisateurs cette liaison. Et puis deuxièmement, et qui est l'objectif difficile à atteindre, c'est pouvoir remplir le tuyau quand je suis seul. En gros, si je m'achète une liaison satellite pour moi-même, est-ce que je pourrais vraiment bénéficier de cette liaison pour aller très très vite? Je vous ai dit, il y a des liaisons à un débit de 2 mégabits. Quand je vais télécharger le fichier, est-ce que vraiment ça va aller à 2 mégabits avec TCP, avec ce mécanisme dont j'ai parlé là pour TCP qui commence très très lentement et qui continue. On va voir quels sont les problèmes. Cette charge du protocole TCP, la charge envoyée par la source, quand je me connecte vers un serveur, si je suis un récepteur avec une antenne de réception satellite, j'envoie ma requête par le réseau et l'information me parvient par le lien satellite. Il faut quand même pas mal de temps pour que ça arrive, parce que ça nécessite 250 millisecondes pour emprunter le lien satellite. Donc, cette augmentation de la charge, de la valeur de la fenêtre, elle sera lente. En gros, s'il faut que je reçoive un fichier qui est découpé en une cinquantaine de paquets, cinquantaine de morceaux, et transmis en une cinquantaine de fois sur le réseau, le premier paquet, je vais le recevoir, puis après je vais attendre au moins 250 millisecondes pour recevoir un autre paquet, etc., etc. Donc ça va aller très très lentement. Et les gens ils vont dire, mais on s'achète un lien satellite qui nous coûte très très cher pour aller encore moins vite qu'une liaison terrestre. Effectivement, si on ne fait pas attention, vu que le protocole TCP intègre des mécanismes qui sont essentiels pour le contrôle de congestion, parce que la solution naïve qui dit mais débranchez tout ça et faites fonctionner TCP à plein régime, c'est-à-dire dès le démarrage, envoyez tout le paquet, tout le fichier, envoyez les 50 paquets. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas que le satellite. Il y a des liaisons terrestres que quand j'accède à un site web, je l'accède, il est quelque part, il n'est pas au pied du satellite. Donc les données vont transiter par le réseau terrestre et par le réseau satellite, ce qui rend
le problème difficile. Parce que je ne peux pas dire, je suis dans un environnement satellite, je suis tout seul, donc je peux débrancher les mécanismes de sécurité de TCP. Mais si je les maintiens, comme il y a le lien satellite, qui est a priori inséré pour améliorer les performances, comme ça intègre du délai, ben ça va dégrader les performances. Donc, voilà un beau sujet de recherche qui a occupé les gens pendant quelques années. Et donc, du coup, là, il y a pas mal de mécanismes assez complexes qui ont été introduits dans TCP pour s'adapter. Mais jusqu'à maintenant, pas de solution générale. C'est-à-dire, on est toujours dans le cas optimisation partielle selon le contexte, selon l'environnement, selon les paramètres connus du réseau. Il n'y a pas, pour le moment, une façon d'optimiser le fonctionnement du protocole TCP, quel que soit le lien sur lequel on fonctionne. Parce que là, je parle de satellite. On a travaillé sur le satellite, mais d'autres gens travaillent sur TCP, sur liens mobiles, sur ADSL, sur câbles, etc. Et on ne peut pas non plus adopter une solution de relais, parce que les gens qui n'ont pas trouvé de solution ont dit, bah tiens, on en a une, c'est de découper la connexion TCP entre la source et la destination en N connexions, et puis j'ai le TCP du réseau local, le TCP du réseau satellite, le TCP du réseau ATM, etc. Si on revient au principe de base de l'Internet, c'est en violation avec le principe de base. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'introduire dans le réseau des points de contrôle qui seront la terminaison de ma connexion. En gros, il y a un traitement assez important qui va être fait dans le réseau, qui est contraire à la simplicité du réseau. Et en fait, là, ça ne fonctionnera pas. Et les gens qui travaillent pour améliorer les protocoles de l'Internet sont contre ce genre d'approche. En fait, les gens qui travaillent pour l'amélioration des protocoles de l'Internet sont rassemblés dans le cadre de l'IETF, Internet Engineering Task Force. C'est un ensemble de personnes, à peu près entre 1000 et 2000 personnes, selon le lieu où a lieu, l'endroit où a lieu la réunion. Si c'est en Californie, il y aura 2000 personnes. Donc, c'est organisé en groupe de travail. Il y avait un groupe de travail qui s'occupait de TCP sur satellite. Et il y a eu un refus catégorique du morcellement de la solution en morceaux qui vise à découper la connexion TCP en plusieurs connexions. Pourquoi ? Parce qu'elle est en contraire, elle est en violation avec le principe de bout en bout de TCP. Donc là, on a toujours un problème ouvert, il n'y a pas de solution qui a été adoptée, le groupe a été terminé, mais il n'y a pas eu une version TCP pour les satellites, et bien sûr, les travaux continuent pour trouver une solution à cela. Un autre problème que je vais évoquer plus rapidement, c'est le problème de la diffusion. Donc il est très important d'avoir la capacité d'envoyer des données vers un groupe de récepteurs avec la possibilité d'avoir un retour. La différence par rapport à la télé, c'est que la télé, c'est du broadcast. Donc c'est inondation, c'est diffusion vers tout le monde. Alors que le multicast, c'est diffusion sélective vers les personnes intéressées. Et comme on est sur Internet, il y a la possibilité de voie de retour. Donc, en gros, un prof qui donne un cours et la possibilité d'avoir donc, les questions des élèves par le net, par le réseau. Et si on reprend le protocole que j'ai décrit au début, là, le protocole de diffusion multipoint sur le réseau, est-ce que ce protocole fonctionne bien avec une liaison satellite. Je ne rentre pas dans les détails techniques de ce protocole, mais il y a un petit détail qui empêche le fonctionnement de cette diffusion sur une liaison satellite. En gros, vu qu'on va recevoir les données à ce stade-là, à ce niveau, on va les recevoir par satellite, on va faire le test est-ce que ce paquet est reçu par le bon endroit, c'est-à-dire par, par l'endroit que j'utilise, par l'interface que j'utilise pour atteindre la source de ce paquet. C'est un test technique qui est effectué par chaque routeur qui va relayer le paquet, qui va le retransmettre aux autres. Ce test, il va échouer sur la liaison satellite. Pourquoi ? Parce qu'elle est unidirectionnelle. On n'a pas une voie de retour ici vers la source. Donc, le satellite, on vient de dire, il est idéal pour la diffusion. Or, il ne marche pas pour le multicast. Il est au débit, or, il ne marche pas pour faire du TCP. Donc, vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de réticence à l'utilisation des liens satellites pour supporter du trafic Internet. Et donc, là, il y a eu aussi une série de travaux qui visent à résoudre ce problème d'unidirectionnalité de la liaison. Il y a un autre cas où je ne voudrais pas que la liaison soit unidirectionnelle. Considérez le cas où ces récepteurs-là, par exemple, une antenne de réception, j'ai donc chez moi donc une antenne de réception dans ma maison, et j'ai un réseau interne auquel viennent donc se raccorder des nœuds, par exemple moi-même. Quand je rentre, j'ai une centaine d'ordinateurs sur moi, donc ces ordinateurs deviennent, se raccordent automatiquement sur le réseau de chez moi, et je voudrais quand même informer le reste du monde que je suis joignable par le réseau de chez moi, c'est-à-dire qu'ils peuvent me joindre par le lien satellite. Donc il faut que je puisse informer le reste du monde, en l'occurrence ces routeurs-là, de mon existence ici. En gros, il faut que je puisse envoyer des données vers l'autre côté, vers l'autre partie du lien satellite. Or, la liaison est unidirectionnelle, et donc ça pose des problèmes qui ont été aussi résolus donc, par un groupe de travail de l'IETF. Donc voilà un exemple d'utilisation de ce genre de technique. Je voudrais pouvoir accéder à un serveur et donc recevoir l'information par satellite. En gros, je voudrais que ce lien satellite, cette station satellite, connaisse mon existence et connaisse le fait que si je demande une information ici, le chemin le plus court pour me la renvoyer, ce n'est pas de la renvoyer sur le réseau terrestre, mais via le lien satellite, ce qui nécessite un échange d'informations entre ces deux endroits, l'endroit où il y a les récepteurs et l'endroit où il y a les émetteurs. Et ceci n'est pas possible si la liaison est unidirectionnelle. Donc il faut une liaison bidirectionnelle. Donc il faut des travaux pour transformer une liaison unidirectionnelle, c'est-à-dire une liaison avec une antenne de réception classique plus un modem, en liaison bidirectionnelle. Travaux qui ont été effectués pour donc permettre ce genre de fonctionnement. Donc actuellement, on peut utiliser des liens satellites pour diffuser de la vidéo sur le réseau, et les personnes intéressées auront à demander l'abonnement et pourront alors recevoir la diffusion par satellite. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques de ces mécanismes. Donc, les avantages de ces mécanismes, c'est que ça supporte la transmission multipoint. Donc, on a résolu le problème du support de multipoint avec ce mécanisme-là qui a été défini. Mais bien sûr, on n'a pas évoqué, on n'a pas trop recherché l'aspect passage à l'échelle. Parce que quand on parle satellite diffusion, les gens nous sortent, et s'il y a 1 million de récepteurs, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que votre mécanisme passe à l'échelle ? Donc, les mécanismes qui ont été définis jusqu'à maintenant pour permettre ce genre de fonctionnement ne sont pas encore, ne résistent pas aux facteurs d'échelle. Voilà, donc ça a été fait dans le cadre de l'IETF, et il y a pas mal d'industriels qui sont intéressés par ce genre de travaux. Dernier transparent, c'est pour parler donc des questions ouvertes. Bien sûr, le problème de l'optimisation de TCP est un problème très très important qui reste ouvert à des sujets de thèse. Il y a pas mal de gens qui travaillent dessus dans les universités américaines et françaises. Et puis une autre question qui se pose actuellement aux chercheurs Internet: quelle intelligence mettre dans le réseau ? Pas mal de gens disent « Ouais, mais ça ne marche pas l'Internet, il faut des garanties, il faut pouvoir acheter une bonne connexion, etc. » Ce n'est pas facile du point de vue technique à intégrer dans le réseau. parce que ce qui a fait le succès de l'Internet, c'est son déploiement formidable. Et ce déploiement n'a été possible et faisable que parce que c'était simple. Le protocole était simple. Donc si maintenant on vient ajouter une complexité pour soi-disant garantir quelque chose à l'utilisateur, ça pourrait remettre en cause ce déploiement, je dirais, à très grande échelle du réseau. Donc il faut être très très prudent sur comment est-ce qu'on améliore le service fourni par l'Internet. Et puis bien sûr, voilà, le passage à l'échelle, c'est un défi très important. Et le support de la mobilité, en gros, qu'est-ce qu'on va faire quand on aura une centaine d'ordinateurs connectés sans fil, bien sûr, en tout IP, et comment tout ça va fonctionner ensemble. Voilà la fin de ma présentation. Je vous remercie et j'attends vos questions.
Bonjour. Vous parliez dans la dernière remarque de votre conférence en tout IP. On a évoqué le problème il y a quelques années du 4 paires d'octets pour la numérotation IP qui était trop juste. On a évoqué le IPv6. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bon, IPv6 est essentiel pour pouvoir faire tout ça. Bien sûr, ce n'est pas encore bien déployé. Il y a une résistance naturelle au changement dans l'Internet. Tout ce qui fonctionne, on le maintient vraiment jusqu'au bout. Et on ne fait un changement que si c'est vraiment essentiel. Donc, à mon avis, quand le besoin viendra pour affecter donc, des adresses IP à tous ces devices, ces outils, ces ordinateurs, etc., on va passer à IPv6, mais si le besoin n'est pas là, ça va reculer l'échéance.
Question de monsieur, voilà.
Bonjour, excusez-moi.
Vous êtes...
Je suis là.
Oui.
Vous avez parlé, en gros, je divise, je simplifie énormément, de deux manières de gérer le réseau. Une qui était très simple et qui permettait son déploiement, donc son succès, et l'autre qui introduisait de l'intelligence, de la complexité, donc, mais qui était contraire à la première. Moi, elles me paraissent complémentaires, parce qu'il ne va pas s'étendre à l'infini. Une fois qu'il aura touché 99,9%, comme le téléphone, peut-être que l'intelligence sera introduite pour l'optimiser, non ? Elles ne sont pas l'une contre l'autre.
Non, la différence avec le téléphone est fondamentale, parce que avec l'Internet, on ne sait pas prévoir la charge qui va être injectée par les différents utilisateurs. Donc, on ne connaît pas l'état des routeurs. On ne connaît pas de façon fine, à un moment donné, quel est l'état du réseau pour pouvoir optimiser. Parce que tous ces mécanismes qui introduisent une intelligence dans le réseau, ça sert à quoi ? Ça sert à effectuer des traitements en fonction de l'état. Voilà, je suis surchargé, j'identifie telle et telle et telle connexion, celui-là, il a dépassé son contrat, je le pénalise. Voilà comment on introduit des garanties dans le réseau. Donc c'est des traitements assez lourds qui nécessitent en même temps une grande mémoire, parce qu'il faut que je stocke l'information de tout le monde, et il faut que je sache quel est l'état actuel du réseau, est-ce qu'il est surchargé ou pas, etc. Donc dans le réseau téléphonique, c'est plus simple à effectuer que dans l'Internet. Maintenant, c'est vrai qu'il y a comme une tendance qui dit, au lieu d'introduire des mécanismes plus complexe dans le réseau, essayons d'élargir donc les tuyaux, c'est-à-dire de mettre des routeurs très très rapides et donc une bande passante très grande, des terabits par seconde, et puis tout ira bien parce que justement, même si les gens partent en vacances, si on a des autoroutes à 24 voies, ben, il n'y aura pas de congestion. Voilà. Donc c'est l'approche qui est donc défendue par certains. Mais je ne dis pas que c'est la vérité absolue.
Question de monsieur ?
Oui. Oui, s'il vous plaît. J'ai deux questions à vous présenter. Je pense d'abord, par exemple, à une chaîne de télévision qui voudrait être la seule à obtenir une information ou une image, quitte à la diffuser ensuite. Peut-on imaginer qu'elle observe un protocole de transmission par satellite en partant d'une source codée qu'elle serait seule à pouvoir décoder? Voilà la première question. La deuxième, je suppose qu'elle est probablement naïve, je la pose tout de même. La Lune, qui à son passage provoque les phénomènes de marée, agit-elle de même sur les positions des satellites stationnaires? Et donc, serait-ce peut-être un élément de trouble pour la fiabilité des transmissions?
D'accord. Alors, je réponds tout de suite à la deuxième, parce que je ne connais rien du tout sur les aspects de transmission. Je suis désolé. Alors, je travaille sur les aspects réseau, transmission de données par satellite, mais je ne connais absolument rien sur les effets que pourrait avoir la Lune sur les satellites ou sur les effets de propagation de signal, etc. Pour la première question, la réponse est oui. On peut bien sûr chiffrer les données et puis les transmettre, même si on les transmet sur le satellite et ils peuvent être reçus par tout le monde, mais les données ne sont pas exploitables par les gens parce qu'il faut détenir la clé pour pouvoir donc décoder ces données.
Tout d'abord, je peux peut-être répondre sur une partie sur la deuxième question.
Oui.
En fait, ce qui se produit, la Lune n'a pas d'influence comme elle l'a sur les marées au niveau des satellites. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des éclipses qui se produisent, éclipses de Lune, éclipses de Terre par rapport au Soleil, et qui font que les panneaux des satellites géostationnaires sont plus ou moins éclairés, donc plus ou moins alimentés. Donc ça, effectivement, deux fois par an, ça peut avoir des répercussions. J'en viens à ma question. Vous avez parlé du satellite comme étant pas tout à fait en adéquation de par le fait qu'il soit unidirectionnel. Alors, moi, je voudrais quand même apporter un petit modulo à ça. D'abord, on peut très bien imaginer, c'est assez facile d'imaginer, que si on peut envoyer dans un sens, mais aussi on peut envoyer dans l'autre sens. Et il y a donc deux problèmes, je pense, à distinguer. Il y a le problème des équipements professionnels et des équipements grand public. Alors, au niveau des équipements professionnels, il existe, je crois, ce qu'on appelle des terminaux, qu'on appelle les VSAT, qui, eux, permettent de faire l'envoi dans un sens et dans l'autre, et qui donc permettent d'avoir un échange... pas forcément avec le bon protocole, mais permettre de faire de l'internet par satellite avec différents protocoles. Mm-hmm. Maintenant, si on pense au grand public, je crois qu'on, dans certaines bandes de fréquences, maintenant, vont arriver certaines antennes de très petit diamètre qui vont permettre de faire également cet échange-là au niveau du grand public ou ce qu'on appelle les SOHO, Small Office, Home Office, qui permettront d'en faire cette bidirectionnalité. Mm-hmm. Dernier point, je voudrais dire que si on pense uniquement à l'unidirectionnalité, et c'est vrai que c'est quand même moins cher d'avoir une antenne qui reçoit uniquement par rapport à une petite station qui fasse également de l'émission, on peut imaginer, comme c'est utilisé maintenant pour pas mal de PDA et des choses comme ça, d'avoir, puisque les mémoires augmentent de plus en plus, une sélection qui soit faite a priori sur l'Internet des sites les plus demandés par la population qui est visée, et qui soit envoyée de façon unidirectionnelle en local, au niveau des PC, des ordinateurs, en permettant donc une recherche directement en local de la part de l'utilisateur qui va rechercher évidemment qu'une petite partie de la mémoire, c'est une forme de gâchis, mais en même temps il aura un accès direct, sans retard, sans qu'il y ait de problème, et donc en contournant la monodirectionnalité du satellite.
D'accord. Donc je réponds en partie à la question. Donc, l'unidirectionnalité, je l'ai évoqué ici comme étant un des aspects qui illustre donc la difficulté d'optimiser les protocoles. Donc, les liaisons ont certaines spécificités et effectivement, il y a des liaisons satellites qui ont la spécificité de l'unidirectionnalité. Ce sont les liaisons satellites avec une antenne de réception grand public qui n'a pas les capacités d'émettre. Donc, effectivement, le satellite en soi n'est pas unidirectionnel, donc c'est un miroir. Dans certains cas, donc les satellites qui n'ont pas de traitement embarqué, c'est un miroir, donc il réfléchit le signal, il peut le faire dans les deux sens. Donc c'est le fait que l'antenne ne dispose pas de capacité d'émettre.
hein, qui rend la liaison unidirectionnelle. C'est le fait que c'est notre antenne grand public qu'on achète à 600 francs ou qui est même parfois fournie gratuitement avec un abonnement de télé numérique. Donc ce genre d'antenne, avec la bande de fréquence qui va avec, donc ça, ça ne permet pas d'émettre. Et le problème qui a été étudié, c'est comment fonctionner dans cet environnement. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de travaux sur comment contourner les spécificités des liens par des mécanismes au niveau application, applicatif ou au niveau transmission. Donc là, c'est un peu technique. Cette solution, elle est une solution au niveau IP qui rend tout ce qui est au-dessus opérationnel. Et donc, effectivement, on peut combiner cette solution avec une solution de cache dans les nœuds de réception, hein, satellite, mais ça peut fonctionner sans cela. Donc, l'intérêt de ce que j'ai évoqué là pour le routage, hein, c'est que ça permet d'intégrer la liaison satellite de façon transparente dans l'Internet. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ben, peut-être que la solution serait effectivement de faire des caches, etc. Donc, si on veut intégrer un lien satellite de façon transparente, voilà ce qu'il faudrait faire. Ça ne veut pas dire que c'est un objectif en soi.
Dans les nouvelles générations de réseaux, il est prévu de séparer l'intelligence du transfert des données, des transferts, via des commutateurs. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose, s'il vous plaît, notamment pour gérer l'intelligence, pour gérer les hauts débits, les débits via des pour les comment on dit là, les multiplexages en longueur d'onde. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose, s'il vous plaît?
L'approche je dirais l'école à laquelle on appartient, c'est l'école du IP le plus vite possible. Donc, on profitera de l'existence de liaisons à très haut débit avec le multiplexage de longueur d'onde. Maintenant, de là à aller dire qu'il faut avoir un plan de contrôle séparé, je ne pense pas. Il faudrait garder les routeurs IP et faire le routage et la commutation et le relais des paquets IP le plus vite possible sur le lien de sortie. Donc c'est vrai que c'est assez contesté. Il y a pas mal de gens qui réfléchissent sur l'évolution du débit du réseau et j'ai pas encore d'idée tranchée sur ça. C'est un sujet qui est ouvert pour moi.
Question de monsieur.
Oui, bonjour et merci. Le réseau Iridium est-il récupérable pour la voie de retour Internet?
Techniquement ou financièrement?
Je ne sais pas, peut-être pour surtout techniquement, financièrement.
Non, je pense qu'il y a pas mal de problèmes donc, techniques et qui ont fait en sorte que ce n'est plus récupérable financièrement, mais... ce n'est pas facile de gérer ce genre de connexion. Et comme je disais, je n'ai pas de connaissances spécifiques sur la technologie des satellites. Mes travaux sont sur les protocoles de communication dans un environnement satellite et quels problèmes ça pose pour les protocoles et comment régler ces problèmes-là. Mais je pense que c'est trop tard pour Iridium maintenant.
On prend deux dernières questions.
Oui, bonsoir monsieur. J'ai une première question. D'abord, deux. D'abord, dans quel langage sont développées les choses dont vous avez parlé?
C'est.
Dans quel langage sont faites les liaisons, hein? Et deuxièmement, parmi les erreurs de transmission, quel risque il peut y avoir qu'on ait des interférences, un petit peu quand il y a des interférences téléphoniques, par exemple? Merci.
Ok. Le langage de programmation, c'est le langage C. Et pour les erreurs de transmission, ce qui se passe, c'est que les bruits électromagnétiques introduisent donc des inversions des valeurs des bits. Et ce qui se passe,
c'est qu'on a des mécanismes de protection très très costauds qui introduisent de la redondance dans l'information transmise et qui permettent de récupérer. Donc dans les liaisons DVB numériques actuelles, on a fait des tests sur un lien satellite que nous avons à Sophia Antipolis, on a eu 0% d'erreur pendant des mois. Maintenant, dans d'autres bandes de fréquences, il est annoncé qu'il va y avoir des pertes. Disons que nous, chercheurs, les pertes, ça nous arrange, parce qu'il faudrait trouver des mécanismes pour régler après. Donc nous, on a cherché à avoir des pertes sur le lien que nous avions et on n'a pas pu en avoir. Donc c'est pour dire que les mécanismes de protection au niveau très bas empêchent, donc masquent les erreurs, et nous avons une bonne communication par satellite avec une très très bonne qualité, donc il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas ce genre de choses.
Nous allons prendre une dernière question.
Bonjour, donc merci pour la conférence, entre parenthèses. Je voudrais vous poser une question sur IP et les systèmes mobiles. Donc il y a eu une grande conférence en avril 1997 et on a décidé que l'UMTS ne serait pas de l'UMTS haut débit commuté classique, mais de l'UMTS IP. Donc depuis, on devait avoir UMTS pour l'an 2000, tous les ans en retard, tous les mois en retard d'un an, j'exagère toujours un peu en disant ça, mais c'est à peu près ça. Et quels sont, selon vous, l'essentiel des problèmes que l'on va avoir pour faire passer IP dans ce monde mobile? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut attendre plutôt UMTS en 2013, en 2015, en 2005, ou plutôt en 2020, ou est-ce que les problèmes vous paraissent déjà relativement insolubles?
Non, il y a des problèmes, bien sûr. Donc il y a un problème d'approche. Les gens qui poussent IP par-dessus les autres réseaux veulent que le mécanisme d'interconnexion soit effectué par IP et ils veulent masquer les services fournis par les différents réseaux. Donc ils voudraient que, par exemple, si on parle de qualité de service, ils veulent que la qualité de service soit fournie par IP, au niveau IP, et non pas par le réseau lui-même. Donc, il y a un problème d'interfonctionnement des mécanismes IP avec les mécanismes ATM, UMTS ou autres. Et là, on rentre aussi dans un débat philosophique, parce que les gens de l'Internet disent qu'il faudrait que les réseaux candidats à être intégrés dans l'Internet sachent comment définir le service, hein, pour nous simplifier la vie. Parce qu'effectivement, si les gens qui construisent des réseaux les font de façon à être facilement intégrables dans l'Internet, ça ira mieux. Bien sûr, on aurait pu voir le problème de l'autre côté en disant, mais si les gens qui ont fait le protocole de l'Internet avaient pris en compte les spécificités du réseau, ça aurait été mieux. Mais il y a un certain interfonctionnement entre les mécanismes spécifiques au réseau et les mécanismes IP qui rend les problèmes plus difficiles. Et je dis, ben, heureusement, parce que ça paye nos salaires pendant quelques années.
Merci Walid Dabous.
Merci.